si bellement exposé qui vous invite à l'aventure. Alors moi, il me manque quelque chose. Je ne sais pas s'il me manque quelque chose. En tout cas, je vais peut-être redire la même chose, mais autrement. Et essayer, dans ce parcours que vous envisagez maintenant, de dire quelle va être la place et l'importance de la Bible. C'est la question que vous posez. Et certains, d'ailleurs, en venant au CIF, disent « Mais je suis aussi venue pour la Bible, la comprendre, qu'est-ce que c'est ?» Ou c'est ça qui m'a amenée à me poser des questions. Donc, comment Bible et théologie vont-elles s'articuler? Ce ne sont pas deux voies parallèles qui se rencontreraient jamais, ou bien dans un infini plus tard. Ce n'est pas non plus d'abord la théologie après la Bible, et encore moins d'abord la Bible après la théologie. Voilà. Mais, il me semble que... Alors, il faut que j'avance. Non, c'est de l'autre côté. Voilà. Que la Bible est déjà présente et toujours présente à l'intérieur d'un parcours de théologie. En fait, moi, je dirais plutôt, alors avec des images, non pas des images visuelles, mais des images littéraires, que la Bible... Ah, c'est parti. Ça va? Bon, d'accord. Je dirais que la Bible... Il faut quand même que j'efface ça, moi, sinon je ne m'en sortirai pas. Bon, peu importe. Je dirais que la Bible, c'est comme la source à l'intérieur de la théologie. C'est comme le terreau nourricier, ce sur quoi elle s'ancre pour grandir. Et c'est aussi ce à quoi elle revient toujours. Voilà, une source qui diffuse, qui accompagne, mais plus que ça, qui est à l'intérieur, qui nourrit, qui informe. C'est le point de départ de la théologie et elle y revient sans cesse. Et il y a une logique à ça. Et il y a une logique à ça, puisque la théologie, c'est, si on fait un petit peu de... Alors moi, je vais beaucoup parler du langage. Théologie, logos, c'est la parole, et théos, c'est Dieu. Donc la théologie, c'est d'essayer de prononcer une parole sur Dieu. Eh bien, la théologie, c'est une parole sur Dieu, mais la Bible, vous savez qu'on dit souvent, c'est la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la Bible, elle est écrite. Donc, c'est une parole, ou en tout cas, une écriture à relever en parole. Mais c'est vrai que, lors des célébrations, vous entendez quelqu'un lire et terminer en disant « parole de Dieu ». Parole de Dieu, alors à nouveau du logos, de la parole, et puis encore Dieu, sur Dieu, théos. C'est une belle affirmation, parole de Dieu, mais c'est trop rapide. Et vous allez vous passer au moins un trimestre à vous interroger là-dessus. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que Dieu parle? Que Dieu parle. Si vous l'avez vraiment entendu auditivement, c'est qu'il y a un problème, hein. Il y a un problème, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu parle? Alors, je vais essayer de développer cette question rapidement, mais en trois points, et en vous faisant revenir un peu en arrière. Vous le savez, les peuples anciens, et nous-mêmes, Français ou Gaulois, ont toujours tenté de lier leur identité ou le récit qui accompagne les récits fondateurs, hein, l'histoire de France de Bainville, à des ancêtres divinisés, voire à des divinités. Voilà. Jules César s'est conçu lui-même comme, ou s'est dit, le fils d'une déesse. Il faut se diviniser. Et le peuple d'Israël, parce que nous allons dans la Bible rencontrer un peuple qui est le peuple d'Israël, à travers les siècles, il s'est aussi interrogé sur son passé. Il a essayé de le comprendre et il a cherché quel Dieu présidait à ce passé. Y a-t-il un Dieu qui, au fond, nous conduit dans nos combats et qui nous mène par hasard à la victoire? Et ce Dieu, il l'a cherché où? Eh bien, dans les récits anciens, dans les vieilles légendes, dans les événements de l'histoire qui ont été racontés oralement, médités, enfin, qui se sont transmis et qui ont fini par se mettre par écrit, dans des oracles de ceux qui parlaient en public et qu'on appelait les prophètes, puis on les met aussi par écrit, dans les écrits des sages, et ça devient des proverbes, dans des textes de loi, dans des poèmes, dans des fables, enfin, dans de la littérature. Ce faisant, la Bible, qui est tout cela, nous ancre donc dans une histoire et dans une histoire d'humanité. Ce sont bien des vies humaines dont elle va parler. Et donc, elle nous installe d'emblée dans ce terreau humain, la boue, les difficultés, les contradictions, avec, il y a tout dans la Bible, hein, les abus, les emprises, les viols, les meurtres, etc., de la vie humaine, et aussi dans ses grandeurs, dans les aspirations de l'être humain, dans ses beautés. Dans les beautés de l'histoire humaine. Du coup, je vais commencer par affirmer que la Bible, ce sont d'abord, non pas tout de suite paroles de Dieu, mais des paroles d'hommes mises par écrit et des paroles d'hommes à la recherche de Dieu et qui essayent de faire résonner l'écho de Dieu dans leur histoire. Et évidemment, comme ce sont des paroles d'hommes, ce sont des paroles diverses, divergentes, parfois contradictoires, et de toute façon, toujours situées, toujours limitées dans un contexte. Et c'est ça qui fait la matière première de la théologie, comme vos expériences de vie vont aussi faire la matière première de la théologie. Alors, j'avance d'un pas. Ce petit peuple, Israël, a osé affirmer que, à travers les siècles, en remontant toujours plus loin dans ses récits du passé, il a découvert quelqu'un. Mais au fond, il n'a pas, c'est pas lui qui est allé découvrir quelqu'un. Ce qu'il constate, c'est que, au contraire, quelqu'un est là qui l'attendait. Il y a quelqu'un qui le précède. Voilà. Il y a quelqu'un qui le précède. Ce quelqu'un, il l'appelle Dieu. Et c'est ce quelqu'un qui a l'initiative. Depuis toujours, il a été précédé, attendu. Depuis toujours, il y a quelqu'un qui l'appelle au coin du bois, qui l'attire et qui lui a proposé son alliance. Celui qu'il appelle son Dieu. Et ce Dieu s'est engagé dans une promesse, dans une présence indéfectible, qu'on l'accepte ou non, qu'on le découvre ou non, mais lui, il est là, dans cette présence indéfectible, aux côtés du peuple et aux côtés de l'humanité. Alors, il y a une belle image pour dire ça. Elle est dans la Bible, donc c'est une image littéraire, c'est un récit, l'histoire de Jacob. Ce Jacob qui a été, au fond, qui a été épouvantable, il a volé la bénédiction à son frère Ésaü. Il s'est arrangé pour que son frère soit chassé. Bon, ce n'est pas un personnage recommandable. Menacé par son frère, il s'en va et donc il arrive dans un lieu, c'est un sanctuaire aux dieux multiples. Il se couche la tête sur une pierre, comme on faisait, il s'endort. Et il a un songe. Un songe, il faut que je retrouve. Où a-t-il passé mon songe? Ah non, tu ne m'as pas ouvert le bon. Il n'est pas là, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. C'était l'échelle de Jacob. Alors, l'échelle de Jacob, vous avez de multiples représentations dans l'histoire. Celle que j'avais choisie, c'était la représentation de Chagall, parce que je la trouve très belle. Vous la retrouverez, tapez Chagall, l'histoire de Jacob. Vous retrouvez ça tout de suite sur Internet. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il rêve qu'il y a une échelle qui part de terre et qui monte jusqu'au ciel. Et le ciel s'est ouvert. Le ciel, c'est évidemment le lieu où sont les divinités. Et sur cette échelle montent et descendent des êtres célestes. Autrement dit, il a été mis en communication avec la divinité. Voilà, merci Bernard. Et Jacob va dire en se réveillant, « Le Seigneur était là et moi, je ne le savais pas. » Et ça, c'est, j'allais dire, le geste même des auteurs de la Bible. Ils se retournent sur ce passé et ils constatent, « Le Seigneur était là et je ne le savais pas. » Et c'est notre geste quand on lit la Bible, mais ça peut être aussi notre geste quand on lit nos vies. On relit nos vies, on se dit, le Seigneur était là et moi, je ne savais pas. Alors, le Seigneur était là. Évidemment, tout de suite, quand on découvre ce Dieu qui était là et que ce Dieu que nous fait connaître le judaïsme, nous sommes ses héritiers. La question devient théologique. Qui c'est ce Dieu? Qu'est-ce qu'il raconte? Et qu'est-ce que je peux en savoir? Et sur ce point, la Bible à la fois nous aide à répondre et nous met immédiatement en garde. Elle nous répond, et là je reprends ce que disait Bernard tout à l'heure, que nous n'atteindrons jamais la connaissance totale, parfaite de Dieu, peut-être dans un autre monde. Nous ne saisirons jamais, nous ne comprendrons jamais, nous ne ferons jamais le tour de Dieu. Voilà. Ce que la Bible va nous donner, et ça correspond aussi à ce que vous allez échanger entre vous de vos propres histoires, ce sont des points de vue partiels sur Dieu, des expériences personnelles particulières à différents moments de vos vies, parfois différentes, et il y en a eu à différents moments de l'histoire humaine, elle était faite par des hommes différents. Le Dieu d'Israël qu'on rencontre dans la Bible, il est effectivement, il a des visages pluriels. C'est d'abord un Dieu guerrier, le Dieu qui accompagne son peuple dans ses combats. Le Dieu Tsabaoth, le Seigneur Tsabaoth, on disait comme ça autrefois, maintenant on traduit de l'univers, mais ça veut dire d'abord le Dieu des armées. Alors comme on a tendance à tout spiritualiser, on a dit c'est le Dieu des armées célestes. Pas du tout, c'est Gott mit uns, c'est Dieu avec nous quand on va au combat. Et il a intérêt à nous aider à vaincre, sinon on ne va plus croire en lui. Le Dieu des armées, le Dieu violent, le Dieu vengeur, éventuellement, mais aussi le Dieu de l'orage, le Dieu des forces de la nature qui se mesurent avec elle. Dans les psaumes, il y a des splendides descriptions du Dieu de l'orage qui chevauche les nuées et qui descend. C'est aussi, en même temps, un Dieu amoureux. Et partant, il est jaloux. Quand on est amoureux, on est jaloux. Ce n'est pas toujours facile, un Dieu jaloux. Donc ça peut être un Dieu violent. Et puis, en même temps, et à côté d'un chapitre à l'autre, on va découvrir un Dieu, au contraire, amoureux, mais dans la douceur. Un Dieu paternel et maternel. Un Dieu qui écrit son peuple sur les paumes de ses mains, pour jamais l'oublier. Un Dieu dont la matrice s'émeut. Alors, c'est féminin, ça, hein, c'est autre chose. Voilà. Un Dieu père, un Dieu mère, un Dieu proche. Et finalement, un Dieu qui se dira l'Emmanuel, en hébreu, ça veut dire Dieu avec nous. On peut dire aussi un Dieu en quête de l'homme. Voilà. C'est Dieu qui nous cherche. C'est Dieu qui nous cherche. Au fond, ça nous rappelle quoi ? Eh bien, ça nous rappelle que la Bible, qui nous offre cette étonnante collection d'expériences humaines, nous dit, attention, il faut prendre conscience du caractère toujours situé, toujours partiel, voire partial, de nos affirmations et surtout de nos affirmations théologiques. Quand on dit Dieu, c'est toujours un point de vue sur Dieu qu'il faut déployer, hein, qu'il faut avancer le plus loin possible. Mais tout cela en sachant qu'on reste en contexte. Au fond, la Bible nous appelle à l'humilité, à la mesure et aussi à la confrontation. C'est tous ces visages de Dieu confrontés qui nous font avancer vers ce que nous pouvons saisir du Dieu unique. Y a-t-il progrès dans l'histoire ? On sait bien que l'histoire humaine, elle ne progresse pas. Elle a surtout progressé en horreur et en catastrophe. Progrès dans la découverte de Dieu et parfois des reculs. En tout cas, il faut qu'il y ait toutes nos recherches, tous nos efforts assemblés pour qu'ensemble, nous avancions un peu vers ce Dieu qui est proche de nous, qui s'approche de nous. Alors, dernier point, et je m'arrête, je vais un peu plus loin. Le trait majeur de ce Dieu, je l'ai dit dès le début, c'est qu'il parle. Parle à son peuple à travers ses écrits. Et ses écrits, lorsqu'ils sont relevés, proclamés, ils deviennent paroles. Un Dieu qui parle aussi, vous allez le voir dans ce premier trimestre, dans la création, au cœur de l'homme. Un Dieu qui s'approche sans arrêt dans la sagesse, dans les prophètes. Et un Dieu qui s'approche tellement qu'il finit par se faire parole et que cette parole finit par se faire chair. L'évangile de Jean, dans son prologue, le proclame. Et la parole, ce logos de la théologie, la raison tout à l'heure, s'est fait chair dans cet homme, Jésus, le Christ, que nous proclamons fils de Dieu. La Bible nous conduit à écouter Dieu au creux de notre humanité et dans cet homme, Jésus-Christ. Mais là encore, attention, à nouveau, le Nouveau Testament va nous révéler, c'est l'autre face de la Bible, hein, les deux sont en vis-à-vis, comme en miroir. Il va nous révéler quoi ? Eh bien, les expériences différentes, inouïes, de Dieu qu'ont fait ses disciples. D'abord, les disciples de Jésus, dans sa vie, sa mort terrible, et dans un événement sans précédent qu'ils vivent après sa mort, celui qu'ils avaient vu mourir, ils l'ont rencontré vivant. Mais qui est-il celui-là ? Et là encore, il n'y a pas de vérité révélée qui vous tombe sur la tête en quelques phrases. C'est à vous à aller chercher dans vos textes, dans vos vies, dans votre dialogue, au fond, ce que ça signifie que celui-là, nous le disons, parole de Dieu. La parole de Dieu qui se révèle en Jésus, à son tour, elle est multiforme. Et d'abord dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il vous offre un bouquet de récits, d'expressions diverses, de témoignages en recherche pour essayer de dire qui il est, celui-là, qui est parole de Dieu. Alors vous avez quatre évangiles avec des témoignages qui sont, comme tout témoignage humain, fragiles, parfois différents et parfois même contradictoires. Il ne faut pas chercher à harmoniser et à unifier. Il y a quatre annonces de la bonne nouvelle parce qu'il faut au moins ça pour témoigner de la richesse de ce que c'est que la bonne nouvelle de Dieu révélée en Jésus-Christ. Il y a des actes, il y a des lettres d'apôtres dans leur diversité. Autrement dit, il n'y a pas une vie de Jésus. On va vous vendre des vies de Jésus. Il y a des tas de livres qui vous racontent une vie de Jésus. On se méfie de plus en plus. Ça continue à exister, mais aujourd'hui, on est quand même un peu méfiant sur une vie de Jésus. Non, il n'y a pas une vie de Jésus. Il y a vraiment, il n'y a pas non plus un message. Il y a des témoignages, des annonces diverses, et vous en faites partie, et vos vies en font partie de ces témoignages, de ces annonces, qu'il faut approfondir, confronter, en faisant de la théologie. D'ailleurs, je vous fais remarquer que Jésus lui-même, jusque dans son procès et jusqu'en face de ses ennemis, laisse toujours à d'autres le soin de dire qui il est. À ses disciples, il dit « Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit dans le peuple ? Qu'est-ce qu'on dit de moi ? Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Et ensuite, il ne donne pas la bonne réponse au QCM. Il les laisse partir et se planter en plus, se tromper. Pierre le premier. Et devant ses interrogatoires, devant le grand prêtre, « Es-tu ? C'est toi qui l'as dit. Prends en responsabilité tes propres paroles. » Et c'est à ça que vous êtes invité, à essayer de dire et à prendre la responsabilité de ce que vous affirmez. Alors voilà, je termine en disant que nous ne venons pas interroger la Bible. C'est la Bible qui nous interroge et c'est elle qui nous conduit à entrer dans ce travail, cette aventure, cette expérience belle que vous allez faire de la théologie. Je m'arrête là, simplement, j'ai beaucoup dit de choses trop serrées, on va continuer à déployer ça ensemble dans 15 jours, dans une première présentation de ce premier livre, gros livre de l'Écriture, l'Ancien Testament, donc le samedi 14 octobre, et je vous rends la parole.
Des réactions, questions ?
Est-ce qu'il y a des questions ? Des réactions ?
Oui ? Ah oui, la question, quelle Bible ?
Quelle Bible ? Je vous donnerai une liste le 14 octobre. Il y a des Bibles qui sont faites de façon différente. Il y a des Bibles pour la proclamation, la Bible de la liturgie. On peut la discuter, mais elle est faite pour ça. Il y a des Bibles qui sont faites pour la lecture et le partage de vie. La nouvelle Bible en français courant, par exemple. Et puis, il y a des Bibles qui sont faites pour le travail. Le travail, la recherche ensemble, le partage, la confrontation. Et je crois que dans un parcours de théologie, c'est bon d'avoir une Bible de ce genre. Moi, je vous conseille la TOB, ou T-O-B, traduction œcuménique de la Bible. Elle a diverses formes. Il y a le gros pavé avec toutes les notes et les introductions, qui évidemment est très riche et qui vous aide à avoir tous les éléments pour mieux comprendre et mieux interroger le texte biblique. Et puis, il y a un livre plus réduit aux notes essentielles. Alors, le pavé, vous ne pouvez pas le transporter pour chaque cours, sauf si vous êtes en Zoom. Mais si vous venez au cours, le métro, etc., vous le laissez chez vous pour travailler. Du coup, c'est bon à ce moment-là d'avoir une plus peu pour le cours, parce qu'on va vous parler de la Bible en cours, une petite Bible en format réduit. Et le format réduit, c'est la Bible en papier, dit papier Bible, de Jérusalem, qui effectivement est grosse comme ça, voilà, et qui ne pèse rien. Après, si vous avez le courage, vous transportez votre TOB. Alors, il y a une librairie qui va venir le 14 octobre et vous vendre tout cela aux entractes ou à la pause. Et puis, il y aura aussi sur le papier que je vais vous donner l'adresse en ligne de cette librairie où vous pouvez commander en ligne. Vous aurez ça le 14. Voilà. Ça va ?
Autre question ? Alors, on va faire une petite pause. On se retrouve vraiment assis à 11h pour qu'on tienne le truc. Je vous demande juste une chose qui est quand même très importante. Il faut que tout le monde ait pu émarger, qu'on puisse repérer ceux qui ne sont pas là et qu'on doit rappeler ou aider un petit peu. Donc, il y a les papiers, les listes qui sont là et il faut que tout le monde ait émargé. Voilà, à tout de suite.
Je vais parler. rester, moi je vais rentrer chez moi.
Moi non plus.
Bon,
alors.
Bon, alors.
Bon, on n'y arrive pas. Tu fermes. À ce moment-là, tu fermes, je me débrouille.
Ouais. Oui.
Dans ton ordi. Hop. Non, mais avec le.
Mais là, comme ça, hop, comme ça, il s'est fermé.
Très bien.
Et on peut avec.
Hop, on peut voilà.
Merci.
Bien sûr, merci.
Bon, ben voilà.
Qu'est-ce qu'ils ont comme ça?
Bon, oh, oui, bah, bien non, sûr.
Mais c'est formidable d'avoir une année pareille, hein, c'est merveilleux.
Oh, c'est formidable. Ah, oui. Mais là, vous les mettez vraiment.
Il faut remercier les dames qui ont fait le boulot de communication. Hein. Toi, la première, mais c'est formidable. L'accueil d'Hélène. Chapeau.